C'est Marion Kazanov qui présente aujourd'hui le journal des Amériques et d'Haïti. Marion, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Au sommaire, la pandémie de coronavirus sur le continent américain. Aux États-Unis, au moins 5 millions d'Américains ont perdu leur assurance chômage, conséquence de la crise sanitaire. C'est le dossier Amérique du jour. On parlera aussi du coronavirus dans la revue de presse. Les États-Unis entrent dans une nouvelle phase de l'épidémie. Direction Haïti ensuite, où notre correspondante nous dressera le portrait de Compé Philo. Le journaliste est mort vendredi. Il était le pionnier du journalisme créole. Et puis on terminera cette tranche d'information avec le journal de l'Outre-mer. La pandémie de coronavirus a durement frappé le système de santé américain. Non seulement les hôpitaux surchargés dans certains États, en plus de cela, 5 millions d'Américains auraient perdu leur assurance maladie entre février et mai. Dans le pays, près de la moitié des travailleurs en bénéficient grâce à leur employeur. Mais avec la crise, nombreux sont ceux qui l'ont perdu en même temps que leur emploi. Sans couverture sociale, difficile pour eux de se rendre chez le médecin ou à l'hôpital. À 4 mois de l'élection présidentielle, la réforme du système de santé n'est plus seulement une question de santé publique, mais aussi un enjeu politique. Cécile Dacosta.
35 000 ou 75 000 dollars, c'est le montant des factures que plusieurs Américains sans assurance ont reçues après avoir été hospitalisés pour une infection au Covid-19. Les soins coûtent cher aux États-Unis, ils peuvent même mettre une famille entière en faillite. Selon une étude américaine, ils seraient 27 millions à avoir perdu leur couverture sociale depuis le début de la pandémie à cause de la perte d'un emploi ou d'une baisse de leurs revenus. Nombreux sont ceux qui ont pu bénéficier d'alternatives proposées par le programme Obamacare, par exemple, destiné aux plus modestes. Mais selon une autre étude, plus de 5 millions d'Américains resteraient sans assurance, faute d'avoir été éligibles. Alors que le virus circule activement dans le pays, la peur des frais médicaux l'emporte souvent sur la santé, comme l'explique le docteur Ali Raja, professeur de médecine à l'université de Harvard.
Puisque ces gens ne vont plus chez le médecin, on passe à côté de patients qui subissent des infarctus ou des accidents cardiovasculaires. Mais on passe aussi à côté de patients qui ont le Covid-19, qui restent chez eux et qui peuvent contaminer leur famille et leur entourage. Tout ça parce qu'ils ont peur d'aller à l'hôpital et peur des frais que cela entraîne.
La situation est d'autant plus problématique que la moitié des Américains qui ont récemment perdu leur assurance vivent dans les zones les plus touchées par la pandémie : Floride, Texas, Californie, New York et Caroline du Nord. Au mois d'avril, le gouvernement a mis en place un fonds de 100 milliards de dollars à destination des établissements de santé. Le but, rembourser l'hospitalisation des patients atteints du Covid-19 et sans assurance maladie. Une mesure qui tarde à faire ses preuves, selon Sabrina Corlett, enseignante-chercheuse à l'université de Georgetown.
Une des premières critiques faites à ce programme, c'est que l'argent allait souvent aux hôpitaux qui en avaient le moins besoin. Ou bien ils avaient peu de patients sans assurance, ou bien ils avaient peu de malades atteints du coronavirus. Avec le temps, le programme s'est un peu amélioré. Mais il y a encore beaucoup de gens qui reçoivent d'énormes factures de la part de leur centre de santé.
Pour aider les habitants à obtenir une couverture sociale, une dizaine d'États a mis en place une période spéciale de souscription aux assurances maladie. Peu d'Américains le savent, mais Obamacare leur donne déjà une période de 60 jours pour souscrire à une nouvelle assurance s'ils ont perdu leur couverture sociale liée à leur employeur. Un dispositif sur lequel le gouvernement communique très peu.
C'est avant tout une question de politique et d'idéologie. Je pense que pour Donald Trump, si son gouvernement montre que Obamacare fonctionne ou qu'il l'utilise pour aider les Américains, alors ça irait à l'encontre de ses ambitions politiques.
Comme en 2016, Donald Trump continue de faire de la suppression d'Obamacare une promesse de campagne.
Obamacare est l'une des pires catastrophes que notre pays ait mise en place. Le Sénat est en train de se préparer et nous allons trouver une solution. Mais même si nous proposons le meilleur système de santé qui ait jamais été créé, nous n'aurons aucun vote des démocrates qui veulent toujours faire obstruction à ce qu'on propose.
Au mois de juin, le président a demandé à la Cour suprême d'abroger la loi Obamacare, qui permet à plus de 20 millions d'Américains d'avoir une assurance maladie. Côté démocrate, la sécurité sociale est aussi un point clé de la campagne de Joe Biden.
Il nous faut une alternative publique, maintenant plus que jamais, surtout à un moment où plus de 20 millions de personnes sont sans emploi. Cette alternative publique donnera à tous les Américains, quelle que soit leur situation salariale, la possibilité d'avoir une couverture sociale.
Alors que le virus ne cesse de progresser, une étude estime que 10 millions d'Américains supplémentaires perdront leur assurance santé. D'ici fin 2020, de quoi faire de la réforme du système de santé un enjeu décisif de la campagne.
Cécile Dacosta, la situation sanitaire qui pourrait d'ailleurs s'aggraver en Floride, état américain particulièrement touché, l'ouragan Isaias s'approche des côtes et menace de provoquer des vents violents et des inondations. Une catastrophe qui s'ajouterait à une situation déjà critique en Floride donc. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
On reste aux États-Unis avec à la une de votre revue de presse aujourd'hui cet aveu de l'administration Trump. Les États-Unis sont entrés dans une nouvelle phase de l'épidémie de coronavirus.
Oui, tout à fait, Marion. Le docteur Deborah Birx, qui dirige le groupe de travail en charge du virus à la Maison-Blanche, l'a dit hier sur la chaîne CNN.
I want to be very clear. What we're seeing today is different from March and April. It is extraordinary.
Je veux être très clair. Ce que nous voyons aujourd'hui est très différent de mars et avril, a expliqué Deborah Birx. Le virus s'est extraordinairement répandu, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Donc, si vous vivez en zone rurale, vous n'êtes pas à l'abri de ce virus, a expliqué Deborah Birx, donc hier sur CNN. Selon une analyse des données de santé du Washington Post, l'Alaska, Hawaï, le Missouri, le Montana et l'Oklahoma font désormais partie des États qui ont connu la plus forte augmentation des infections au cours de la semaine dernière. Les experts constatent également des évolutions inquiétantes dans les grandes villes de la côte Est et du Midwest et craignent des propagations majeures dans les villes universitaires alors que les cours reprennent ce mois-ci, précise le quotidien.
Près de 50 000 nouveaux cas de Covid-19 et 478 décès ont été signalés aussi ce dimanche.
Mais selon le Washington Post, en revanche, les chiffres de cette semaine sont artificiellement bas car certaines autorités ne communiquent pas leurs données.
À l'instar du Texas qui compte officiellement 440 000 cas.
Le Houston Chronicle, Marion, a mené l'enquête et il s'est rendu compte que ces chiffres sont incomplets car contrairement à ce qui se fait dans d'autres États, le Texas exclut de ses recensements quotidiens des nouvelles infections les résultats des tests rapides, pourtant de plus en plus populaires aux États-Unis. Ces tests sont réalisés notamment dans les cabinets des médecins généralistes, mais aussi dans certains hôpitaux. Le patient obtient alors le résultat en 30 minutes. En excluant ces tests de son décompte quotidien, le Texas passe à la trappe des dizaines de milliers de cas, dénonce le Houston Chronicle.
Le virus poursuit également sa progression dans les pays latino-américains. Le Nicaragua a été parmi les derniers à prendre des mesures de protection. Le président Daniel Ortega a longtemps nié la gravité de la situation et a été vivement critiqué par l'OMS pour l'opacité dans sa gestion de la pandémie. Mais depuis la mi-juillet, Stéphanie, le gouvernement sandiniste du Nicaragua impose finalement des tests aux voyageurs qui souhaitent entrer sur son territoire.
Et pour ce faire, les autorités ont commandé 100 000 tests PCR. Seulement voilà, chaque test est facturé 150 $ américains, un moyen pour le gouvernement d'avoir accès aux billets verts, alors qu'avec la pandémie, les recettes fiscales se sont effondrées, tout comme les exportations, explique l'ancienne ministre nicaraguayenne de la Santé, Dora María Telles, au quotidien El País. Si le gouvernement de Daniel Ortega tente finalement de tirer profit de la crise sanitaire pour renflouer ses caisses, les 150 $ par test représentent une fortune et constituent donc un obstacle infranchissable pour bon nombre de migrants nicaraguayens qui voudraient rentrer chez eux en raison de la crise économique qui sévit dans les pays voisins. Plus de 500 d'entre eux sont actuellement coincés à la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica dans des conditions sanitaires effroyables, rapporte El País.
L'autre grand titre ce matin, c'est le retour de deux astronautes américains. La capsule Dragon de la société SpaceX du milliardaire Elon Musk les a ramenés sains et saufs à Terre.
Et cette image de la capsule de ces trois parachutes qui atterrit dans le golfe du Mexique est à la une de très nombreux journaux aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine aujourd'hui. La fin triomphale d'une mission historique, s'exclame par exemple le Washington Post. Les détails de ce retour avec Lubna Anaki.
Lorsque la capsule touche enfin l'océan dans le golfe du Mexique, les équipes de la NASA et de SpaceX explosent de joie. Les deux astronautes sortent les pouces en l'air. La mission est un succès. Ils viennent de rentrer sans encombre après un vol retour de 19 heures et une mission de 2 mois à bord de la Station spatiale internationale. Un moment historique qui marque le retour des États-Unis dans la course spatiale et la reprise des vols habités depuis le sol américain. Car depuis 2011, la NASA était obligée de passer par la Russie et ses fusées fusée Soyouz. Donald Trump n'a pas manqué de saluer l'exploit avec un tweet. Premier amerrissage d'astronautes américains en 45 ans. Formidable, écrit le président américain qui avait promis un retour sur la Lune pour 2024. Elon Musk, le patron de SpaceX, est resté discret, se contentant de féliciter les équipes et les astronautes. Pour le milliardaire, les enjeux étaient importants. Sa société devient la première entreprise privée à assurer entièrement des vols spatiaux habités. La réussite de cette mission ouvre la voie à d'autres vols qui pourraient avoir lieu dès le mois prochain. Et SpaceX pourrait bien entamer des vols commerciaux, cette fois dès l'année prochaine. Lugnanaki, New York, RFI.
Et c'était à Stéphanie Schuller pour la revue de presse des Amériques sur RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti maintenant, où l'un des pionniers du journalisme en créole est mort en fin de semaine dernière. Anthony Pascal, plus connu sous le nom de Compé Philo, est décédé vendredi à l'âge de 67 ans dans l'ambulance qui l'emmenait en urgence à l'hôpital. Il avait fait ses débuts à Radio Haïti Inter sous la direction du célèbre directeur de médias Jean Dominique, puis à la télévision. Un journaliste de terrain sous la dictature de Jean-Claude Duvalier et qui aura tenu ses convictions en faveur de la démocratie. Au micro de notre correspondante Amélie Baron, la journaliste Liliane Pierre-Paul et le réalisateur Arnold Antonin dressent son portrait.
Philo, c'était vraiment une méga star. Dans les années 70, Philo, c'est une superstar totalement incontournable. Quand Philo va quelque part, des gens le suivaient. Il marchait tout à pied et tout le monde connaissait Philo. C'était une méga star.
Dans ce reportage réalisé dans le nord-ouest d'Haïti en 1980, Compé Philo interroge des Haïtiens risquant leur vie sur des bateaux de fortune pour fuir le pays et leur misère. À Radio Haïti, il était l'une des grandes voix, comme le souligne le réalisateur Arnold Antonin.
Il était la voix qui lisait les nouvelles haïtiennes concernant la dictature des Duvaliers de façon très malicieuse en les associant à ce qui se passait chez les autres dictateurs dans le monde, d'une part. Et d'autre part, il était la voix qui racontait la vie quotidienne des gens du peuple. Et cela lui a valu emprisonnement, torture et exil.
Radio Haïti, Haïti Inter.
1330 AM sur Haïti tout entier.
Le 28 novembre 1980, les sbires de Jean-Claude Duvalier mènent une opération coup de poing contre les médias et foncent notamment sur le local de la radio. La journaliste Liliane Pierre-Paul témoigne de cette attaque.
Ils ont envahi la radio et ils ont emmené tout le monde. Philo et moi, on était menottés ensemble. On nous a ordonné de laisser le groupe parce que tout le monde était aligné dans le vaste couloir de Radio Haïti. Et puis quand on est descendu, Philo et moi, ensemble, les 33 marches qui menaient à la rue, et il y avait une voiture banalisée qui devait aller probablement nous abattre quelque part du côté de Fort Dimanche. Mais heureusement, il y a eu un officier de la police qui s'appelait Paul Osni-Casimir. Il était présent, habillé en uniforme de police. Il a dit « Donnez-les-moi ». C'est comme ça qu'il nous a sauvé la vie. On était menottés ensemble, Philo et moi. On allait nous exécuter ce jour-là.
Emprisonnés et torturés, Liliane Pierre-Paul, Compé Philo et quantité d'autres sont contraints à l'exil. À la chute de Duvalier en 1986, Compé Philo revient en Haïti, toujours journaliste, mais à la télévision cette fois.
Il avait une émission à la télé. On pouvait le voir vêtu avec sa tenue vaudou. Et on le voyait avec des bagues à tous ses doigts, avec son alfort, cette espèce de sacoche que portent les pays haïtiens. C'était un grand admirateur et quelqu'un de très sensible à la culture populaire. Moi, je crois que ça a fait de lui un journaliste très connu, qui était resté quand même très simple, hein, et il n'affichait jamais des airs vraiment de grande vedette. Il aimait parler à tout le monde et il avait conservé un style très modeste dans sa façon de vivre.
Téléguinéens peuvent éviter de suivre émission Calfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h l'après-midi.
Cette émission-là qu'il a conçue à Téléguinéens, c'est une émission de rencontre d'une richesse incroyable. Il n'y avait pas de frontières. Toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales sont passées à son émission. Et ça, je pense que c'est un grand témoignage concernant son rôle dans la société, son évolution et ses contributions à la liberté d'expression, la liberté de la presse et surtout son engagement en faveur de la culture haïtienne.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI. Après le succès des histoires racontées par Héloïse Aurien pour l'école à la radio, vous pouvez désormais retrouver près de 50 contes radiophoniques pour faire rêver les enfants. Une souris philosophe, un singe rusé, un monstre effrayant. Allez sur vos plateformes de téléchargement préférées et tapez 7 milliards de voisins, des contes à écouter. Et n'oubliez pas de distribuer des étoiles si vous aimez ce podcast. Couleur tropicale, Claude Issiard.
Face au bouleversement du monde, la génération consciente est debout. Vous faites entendre vos voix et les musiques d'Africa et de ses diasporas portent les messages les plus positifs. Exprimez-vous, laissez vos notes vocales sur notre WhatsApp 00 33 6 37 42 62 24 et nous les diffuserons dans...
Couleur tropicale.
Du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU.
RFI.
Chambre d'hôtel, proche de l'aéroport, Sony Rollins en fond sonore, tes joues se colorent, mes mains se promènent. Poupée, je descends, tu me dis que c'est interdit. Je me demande si t'es indécise. Tes baisers ont le goût d'un vin exquis. Je prends le risque de lancer une invective, ce qui provoque en toi un incendie. Nos corps brûlent, mon cœur reste insensible. On amorce un rodéo intensif et tu combles de rêves mon insomnie. Tu réalises mes illusions orgasmiques. Aucune autre femme ne fera d'irruption nostalgique. Songeur, l'éruption volcanique m'a fait l'effet de la drogue. Mets-moi comme un saut sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort.
On s'écoule sur les dunes de sable. On dit de toi que tu es du le diable. Le temps s'écoule sur les dunes de sable. On dit de toi que tu es du le diable.
Les mains tout stop, dès qu'elle passe le bas de la porte, que des Michael, who's bad. J'attends tranquillement à la sortie, frisson du pubis au plexus, tremblement de terre, en guise d'aperçu, exploré, parcelle par centimètre, jouer le doux, le love ou le gentimètre. Assis en tailleur sur un de ses orteils, les dénivelés font de nous des mortels. Là-bas de montagne mes baïs, forêt au milieu du païs, tout ça je vais le gravir. En moi quelque chose va grandir, en équilibre long son tibia, son parfum frappe l'immédiat.
Et c'est sur ce titre d'une dans la playlist de RFI que se termine cette édition d'Haïti et des Amériques. On se retrouve dès demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince.